C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Cela ne fait que 6 ans que nous sommes mariés. Et pourtant, une éternité semble s'être écoulée. Nous n'allons pas déboucher le champagne. Que fêterions-nous ?
Mon mari ne me fera pas danser. Il ne m'embrassera pas. Il ne me fera pas l'amour. Ni ce soir, ni un autre. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, nous a-t-on dit il y a 6 ans. Mais comment aurions-nous pu imaginer que la mort prendrait notre couple en premier ?
J'aime ma femme. Je l'aime comme au premier jour. Je l'aime plus encore. Mais pourquoi lui dire ? Pourquoi rendre les choses plus difficiles ? Je sais bien que cet amour n'est plus réciproque. Pourquoi m'aimerait-elle encore après tout ça ? Nous sommes là tous les deux dans cette chambre que nous ne partageons plus. Et nos regards osent à peine se croiser. J'ai trop lu tristesse et souffrance dans ses yeux. Je redoute d'y voir pire encore.
Il évite mon regard une nouvelle fois. La chambre danse autour de moi. L'espace d'une seconde, je crois que j'ai trop bu. Puis je me souviens que je n'ai plus bu un verre de vin depuis des lustres. Elles sont loin, les soirées étudiantes dans lesquelles nous sortions chaque week-end. C'est d'épuisement que je titube maintenant. C'est d'avoir oublié ce qu'est un sommeil paisible.
Elle croit que je ne vois pas ses mains trembler sous l'effet de la fatigue. Elle croit que je ne vois pas ses yeux bouffis par les larmes. Je fais semblant de ne rien voir. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire, de toute façon ? Elle a toujours détesté montrer sa faiblesse. Elle nierait tout, en bloc. Mais en réalité, le plus faible, le plus lâche, c'est moi. C'est moi qui vais partir.
Il va partir. Nous le savons tous les deux. La question, c'est quand ? Je ne sais plus si je dois redouter ou espérer ce moment. J'ai perdu mon mari depuis longtemps maintenant. L'homme qui se tient devant moi n'est plus celui qui me serrait dans ses bras pour me rassurer. Il n'est plus celui qui m'embrassait fougueusement au détour des ruelles. Il n'est même plus celui qui rentrait trop tard du travail le soir.
Je ne suis plus le même. J'aurais tellement voulu être l'homme qu'elle méritait. Je l'ai trahi. J'ai trahi nos projets, j'ai trahi nos espérances, j'ai trahi notre avenir. Je pleure maintenant.
C'est la première fois que je le vois pleurer. C'est de ma faute. Je suis devenue si froide avec lui. Si tout cela est dur pour moi, c'est sans doute pire pour lui. J'ai soudain envie de le prendre dans mes bras, comme autrefois, et je me rends compte que ça fait si longtemps que ce n'est pas arrivé. J'ai oublié d'être sa femme.
Ça n'est pas juste pour elle. Elle était jeune. Belle. Elle voulait fonder une famille. Elle était ambitieuse. La voilà devenue infirmière pour un malade irritable.
Je n'ai pourtant pas endossé ce rôle par devoir. C'est par amour que je l'ai fait. Mais la maladie ne laisse pas de place à l'amour. Et je suis si...
fatiguée. Elle n'a personne pour l'aider. Je vois bien qu'elle est au bout du rouleau.
Je n'en peux plus. Mais je ne veux pas l'abandonner. Il a besoin de moi.
Je vais l'abandonner. Mais j'ai tant besoin de la voir encore sourire avant de partir.
Je serai là jusqu'au bout. Et puis, je resterai seule.
Dans cette maison. Notre maison. Au lieu de s'emplir de cris d'enfants, comme nous l'avions prévu.
C'est son dernier souffle que j'y entendrai à jamais.
Deux âmes qui se débattent contre la fatigue, la maladie, la peur. Qui ne savent plus comment faire pour s'aimer. Qui ne savent pas comment faire pour vivre encore, malgré tout. Ça aurait pu en rester là. Mais quelqu'un a tendu la main à Gwen et Corentin. Quelqu'un, ou quelques-uns plutôt. Et Gwen et Corentin ont poussé la porte d'une maison de vie, près de chez eux, en Bretagne. Une maison de vie.
Gwen y a trouvé du répit. Et Corentin a vu renaître peu à peu, sur le visage de sa bien-aimée, ce sourire dont il désirait tant le retour. Corentin y a trouvé de l'aide pour exprimer sa détresse. et Gwen a retrouvé l'homme qu'elle avait épousé.
Dans les bras l'un de l'autre, ils goûtent à nouveau au plaisir simple que la vie a encore à leur offrir. Des rires partagés, des regards qui s'épousent, des silences complices. Ils ne sont plus malades et infirmières, ils sont de nouveau hommes et femmes. Corentin va partir, oui. Mais la maison de vie et ses bénévoles offriront un peu de sérénité, d'aide et de réconfort. Ils offriront encore un peu de vie, celle à laquelle tout le monde devrait avoir droit.
La maison de vie fréquentée par Gwen et Corentin en Bretagne n'existe pas. Du moins, pas encore. Cette histoire est totalement fictive. La réalité, nous sommes en train de l'inventer. Et nous avons besoin de l'aide de chacun de vous pour que l'histoire se finisse bien.
Lance-moi ton cœur. innocence. Je suis bon, non, 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 de Dieu.
Claude Nougaro vit violence, et c'est bien à une forme de violence faite à la vie que s'adresse l'association pour laquelle a été écrite cette nouvelle que nous venons de lire avec plaisir et avec Hélène Bloquelet qui en est l'auteur. Je le disais en présentation de cette émission, format légèrement différent pour La Plume est à vous aujourd'hui parce que c'est aussi à mes yeux l'un des rôles de la littérature que d'accompagner le quotidien, et aussi parce que la littérature ne s'arrête pas aux portes des bibliothèques. J'ai donc aujourd'hui invité Madame Christine Rau, qui est présidente de l'association Maison de Vie, Maison d'Envie, à l'origine de cette nouvelle commandée à Hélène Bloquelet, et je l'ai invitée afin qu'elle nous présente le projet de l'association. Alors Madame la Présidente, Madame Rau, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à cet appel. Alors, très rapidement, on a entendu cette nouvelle qui a pour but effectivement de sensibiliser au projet de votre association. Et j'ai envie de vous demander la première question à l'évidence, en quoi consiste ce projet ?
Eh bien la nouvelle nous dit tout, en fait. Ce projet consiste à accompagner les personnes qui sont dans ces moments difficiles à vivre, qui ont une maladie grave, évolutive, et qui ne trouvent pas sur le territoire la manière dont ils aimeraient être accompagnés. Même si y a beaucoup de choses qui sont faites sur le territoire, on a nos collègues qui sont dans les hôpitaux et qui travaillent extrêmement bien sur l'accompagnement de fin de vie. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'il manquait peut-être un chaînon dans ce maillage qui est déjà sur ce territoire. Et c'est comment on accompagne une personne qui désire rester à son domicile, qui ne peut plus y rester pour X ou Y parce qu'elle se sent trop seule, mais qui n'a pas besoin de technicité, donc de la technicité de l'hôpital. Donc on voulait réunir dans une maison chaleureuse, colorée, pleine de vie, accueillir ces personnes pour qui il y a ce besoin d'accompagnement.
Alors, vous parliez d'un lieu, d'un territoire. Alors, nous sommes dans les Côtes d'Armor, mais nous sommes écoutés bien au-delà des Côtes d'Armor. Est-ce que vous pourriez nous situer un petit peu le territoire concerné ?
Alors, le territoire concerné aujourd'hui pour notre projet est celui des Côtes d'Armor, donc Saint-Brieuc-Armor agglomération. Il faut savoir qu'un projet comme celui-ci, il y en a un autre aussi sur la région Bretagne, puisque nos amis du Finistère ont un projet identique au nôtre, le projet donc TIAM 13 dans le Finistère. Et c'est évidemment réunir ces deux forces qu'il y a sur le territoire pour faire avancer nos projets.
Alors, de quel constat vous êtes parti, peut-être de quel besoin, de quelle réalité personnelle, je ne sais pas, vous êtes parti, si ça n'est pas indiscret, pour mettre ce projet en route?
Non, ce n'est pas du tout indiscret comme question. Je suis infirmière de formation, j'ai travaillé dans un réseau de soins palliatifs et c'est parti d'un constat, en effet, de ce manque qu'il y avait sur le territoire quand on allait chez au domicile, accompagner ces personnes qui sont en fin de vie. C'était pas toujours facile de fermer la porte derrière une personne qui se retrouvait seule, ou des aidants qui étaient épuisés, fragilisés aussi par l'accompagnement quelquefois qui est long pour ces maladies qui sont graves et évolutives. Donc c'est comment penser justement un lieu comme nous l'avons pensé aujourd'hui.
Alors, vous avez fait appel à Hélène Bloquelet pour cette nouvelle, pour écrire cette nouvelle. Comment s'articule justement votre désir de faire connaître ce projet et cet appel que vous avez fait à quelqu'un d'extérieur, a priori au projet au départ? Quel est l'objectif en fait de cette démarche?
L'objectif est de sensibiliser le maximum de personnes. C'est vrai qu'Hélène, de par sa plume, nous a écrit une nouvelle qui est très touchante, qui est très parlante et qui résume mais vraiment à la perfection ce qu'on imagine dans notre projet. Et c'est vrai que de par ce texte, souvent quand on parle de notre projet, on pense aussi personnes âgées. Et là, Hélène, justement, nous décrit par cette nouvelle un jeune couple qui se retrouve justement dans cette situation d'épuisement pour l'aidant. Et puis, cette personne qui est en fin de vie, on le voit très bien, qui a du mal à exprimer ses sentiments, son ressenti. Et c'est comment une maison comme la nôtre pourrait justement essayer de faire se rejoindre ces personnes qui s'éloignent de par la maladie.
Alors, vous avez employé le conditionnel « pourrait », ce oui. qui implique... alors, je sais que votre association date de 2016, en tout cas la Constitution.
Tout à fait.
Et la question que vous me posez à travers ce conditionnel, c'est où en êtes-vous du projet ?
Alors, aujourd'hui, le projet avance petit à petit avec les moyens qu'on se donne, c'est-à-dire que chaque personne dans cette association travaille ou est à la retraite, mais des retraités très actifs, donc très peu de temps à consacrer à cette maison. Donc notre temps libre, on le passe en effet pour cette association. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, évidemment, c'est d'avancer davantage dans ce projet, de savoir si... d'avoir un terrain de disponible, de pouvoir monter les murs de cette maison. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le soutien et de l'ARS et du conseil départemental, mais il nous faut aller plus loin dans ce projet. On a besoin de soutien.
Alors, donc, j'allais vous poser la question, vous avez en partie répondu. Avec quels partenaires donc travaillez-vous? Quels partenaires privés et quels partenaires institutionnels? Donc, il y a l'ARS, il y a le conseil général, m'avez-vous dit?
Alors, le conseil départemental et l'ARS nous ont donné leur soutien moral, on va dire, pour continuer dans ce projet. Il nous faut vraiment avancer pour démontrer que ce projet a du sens. Et pour démontrer que ce projet a du sens, il nous faut du monde derrière nous. Donc il nous faut des adhérents, il faut que les gens puissent être sensibles à ce projet et montrent qu'en effet, ce projet est important sur le territoire.
Alors, quel financement avez-vous déjà mobilisé jusqu'à ce jour ?
Les financements, on en a très peu. Hein. Ce sont les financements, évidemment, des adhérents. Aujourd'hui, je pense que... il y a beaucoup de personnes, d'entreprises privées qui sont vraiment prêtes à nous aider à partir du moment où le projet sera soutenu par une association, une fondation, et qu'on aura l'aval de l'ARS pour évidemment mettre en route ce projet.
Alors, je vais vous demander, donc vous êtes la présidente de cette association, oui. Vous représentez, donc il y a un conseil d'administration, vous êtes à peu près combien d'adhérents, combien de membres actifs dans cette association?
Alors, nous sommes une dizaine à l'initiative de ce projet. Donc, il y a Xavier Durand qui est directeur d'EHPAD à mi-temps. Il y avait Nathalie, Nathalie Tardy, puisqu'elle a quitté le projet. Elle le soutient toujours, mais elle a quitté le projet. Et puis, il y avait moi-même, donc. Et puis, aujourd'hui, il y a 9 autres membres qui font partie de la société civile ou qui sont aussi dans le corps médical.
Alors, justement, j'allais vous demander quelle est la manière dont est reçu un tel projet, parce qu'il existe des structures qui prennent en charge, mais pas dans l'esprit que vous décrivez là. Donc, est-ce que vous vous heurtez peut-être à certaines résistances ou au contraire, vous répondez à un besoin qui est bien compris?
Alors, le besoin, il est évident. C'est vrai que sur ce territoire, il y a, comme je vous disais, on a nos collègues qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent au domicile aussi et qui font un excellent travail d'accompagnement de fin de vie. Et l'idée de ce projet, c'est peut-être de désengorger justement le milieu hospitalier et de faire en sorte que ces personnes qui quelquefois rentrent à l'hôpital mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation puissent intégrer une maison comme la nôtre.
Alors, une dernière question. Christine Rault, Madame la Présidente, comment peut-on vous aider? Comment peut-on vous contacter? Vous avez un site, je présume? Alors, vous pouvez donner votre site, qu'on puisse éventuellement aller le chercher sur Internet, ou bien est-ce qu'en tapant le nom, tout simplement, Maison de Vie, Maison d'Envie, on va vous trouver ?
Tout à fait. Si vous tapez Maison de Vie, Maison d'Envie, je précise envie avec un S,
oui.
vous arrivez directement sur notre site.
Il y a une fiche contact, il y a un numéro de téléphone.
Nous avons un site Internet qui a été fait par Émilie Granja, une de nos adhérentes bénévoles, qui nous a fait un site formidable et que je remercie au passage. Et évidemment, on a besoin de vos soutiens. Donc, vous pouvez adhérer via ce site pour la modique somme de 10 euros. Vous pouvez devenir adhérent de l'association. Et donc, on attend évidemment du soutien. Parce qu'on a besoin de ce soutien pour montrer vraiment à nos financeurs, à nos futurs financeurs, que derrière nous, nous ne sommes pas que 10, mais bel et bien une cohorte d'humains pour soutenir ce projet.
Eh bien, je vous remercie d'être venu à ce micro aujourd'hui de Bretagne 5. On retrouvera ces coordonnées donc sur votre site et on pourra les faire figurer sur le nôtre également pour croiser les informations. Merci, Madame la Présidente.
Eh bien, merci à vous de m'avoir invité et pouvoir m'exprimer sur ce projet.
Alors, on souhaite beaucoup de succès à ce projet très généreux comme l'est cette chanson de Michel Berger, chanson pleine d'espoir et qui donne la pêche, comme votre projet, Celui qui chante.
Celui qui chante, son histoire, un autre histoire, au fond de lui. Celui qui chante, rejoint le ciel, et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous. Il cherche ce qu'il voudrait comme nous. Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante. Retrouve la vie. Retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante. Se sent grandi. Et sans sa force, au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante. Celui qui chante. Celui qui chante.
C'est avec Michel Berger, Celui qui chante, que nous prenons congé. Aujourd'hui, dans La Plume est à vous sur Bretagne 5, nous avons écouté Dieu n'aura pas à se plaindre,
Une nouvelle de Jean-Paul Delessart, ainsi que Maison de vie de Hélène Blockley. Une nouvelle de circonstance écrite tout spécialement pour accompagner le projet de l'association Maison de vie, Maison d'envie, envie au pluriel, dont nous recevions Madame Christine Rau, la présidente. Merci Madame Rau de votre participation.
Merci à vous.
Merci également donc à l'auteur Hélène Blockley, dont nous avons pu apprécier le talent de non seulement d'écriture, mais également de lecture. Merci beaucoup.
Merci à vous Michel.
Merci aussi également à Frédéric Guillon pour la réalisation au cordeau, comme toujours, et toujours tellement talentueuse de cette émission. La plume est à vous, revient sur les ondes le vendredi 24 mai. D'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.